brouillon de lecture. Brouillon de lecture, dans ses versions d'été, c'est déjà notre troisième émission autour du livre Vestibule des causes perdues de Manon Moreau aux éditions Montalent. Vous avez découvert un certain nombre de personnages déjà dans les deux premières émissions que nous vous avons faites. Pardon. Et donc vous allez retrouver aujourd'hui Mara, Robert, Setlu, Enrique, Bruce, Clotilde, le Breton, Flora, Arpad et les autres.
Tout ça à la fois. C'est magique.
Tous ces gens qui marchent, marchent.
D'ailleurs, il n'y a pas que la beauté du paysage, il y a aussi les ampoules aux pieds. Et ça, c'est dur quand on marche.
J'imagine.
Rue Saint-Jacques à Paris. Pendant ce temps-là, à Paris, Bruce Velden, assommé par une soirée à corriger des copies médiocres, forcément médiocres, s'apprêtait à passer la nuit devant n'importe quel western digne de ce nom parce qu'il n'y a que ça de vrai, allez. Celui sur le dessus de la pile, l'homme des vallées perdues. Bonne pioche. Réchauffer les pâtes d'hier soir avec du fromage, ce serait mieux. Il faudrait améliorer le concept des pâtes réchauffées, accommoder les restes, c'est ce qu'on dit, non ? Accommoder les restes. Cette idée le laissait rêveur, Bruce Velden. Lui n'avait jamais su accommoder quoi que ce soit, s'accommoder de qui que ce soit. À moins que qui que ce soit ait jamais su s'accommoder de lui. Il était pourtant pas mal, hein, question physique. Ses cheveux avaient blanchi un peu tôt, les filles aimaient son air de Paul Newman. Mais ça ne suffisait pas. Et puis soyons honnêtes, Paul Newman n'a certainement jamais été aussi seul et paumé et démobilisé au point de consacrer un quart d'heure de sa vie à la question suivante. Je mange au-dessus de l'évier ou directement au-dessus de la poubelle ? Ça, c'est l'avantage quand on est seul, on n'est pas obligé de se mettre à table. Revers de la médaille, personne ne décide pour vous si évier ou poubelle. Le débat est réel. La poubelle, c'est certes un peu déprimant, mais on gagne du temps en faisant tomber directement les restes dedans. Et l'évier, un peu moins sinistre et pratique pour poser la vaisselle sale. Toute sa vie, Bruce avait eu une voix féminine qui, à un moment ou un autre de la soirée, l'appelait « À table !» Il s'était toujours débrouillé pour passer aux yeux des femmes pour un intello pur, non pas hostile, hein, mais étranger aux problèmes d'intendance. Jeanne disait en riant « Quand Bruce rentre dans la cuisine, il demande où est l'évier. » Au début, elle trouvait ce travers émouvant. Mieux, elle se sentait flattée, s'imaginant à la fois muse et mère nourricière, celle grâce à qui le grand homme pouvait se consacrer à son art. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que les livres qu'il publiait n'étaient que des études obscures du lexique de la métamorphose dans l'œuvre de Claude Simon. Des préfaces tout aussi obscures à des ouvrages de collègues, et en plus, toute cette prose n'était en vente que dans les librairies universitaires obscures. Certainement pas celles du quartier. Pas de quoi se vanter de vivre avec un écrivain. Pas de quoi justifier non plus le désintérêt lunaire du dit écrivain pour les choses du quotidien, qui sont pourtant réputées douces quand on s'aime. Bon, suffit, pas la peine d'en rajouter dans le cynisme. La vérité, c'est que Bruce est vraiment ainsi, un handicapé de la vie courante, qu'il trouve vraiment passionnante l'étude au long cours du lexique de la métamorphose dans l'acacia et que toutes les femmes qu'il a aimées l'ont quitté parce que sa maman lui a donné de mauvaises habitudes. Un peu facile, non ? La faute de maman. Mon vieux, t'as 38 ans, je te rappelle. Je sais. Et Jeanne, c'est toi qui l'as quitté. T'es quand même responsable de ça, t'as brisé le cœur de Jeanne. Pas le choix. Quitter Jeanne avait peut-être été son seul vrai acte de courage. Jeanne voulait un enfant. Il chassa les petits démons qui s'affrontaient perchés sur son épaule, comme dans les dessins animés. De toute façon, c'est toujours le mauvais qui gagne, celui avec une fourche et des cornes. Bonjour le cafard. Soyez gentils, allez gâcher les soirées d'autres vieux garçons, je suis certain qu'il y en a plein dans le secteur. Merci, merci. En tête à tête avec ses pattes désormais froides, Bruce jeta un regard mauvais au tas de chemises sales qui occupaient une place croissante dans le salon. Croissante en hauteur et en largeur, parce que bien sûr, il ne s'est pas repassé, et qu'une chemise par passé n'est pas portable. Mais comme Bruce est prof, il va travailler en chemise, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il entasse les chemises sales dans un coin et il en achète au fur et à mesure. Depuis 2 mois. Pensez à localiser un pressing, sûrement qu'ils savent repasser des chemises. ou à engager une gouvernante. Tiens, voilà une brillante idée, une gouvernante. Une gouvernante ou n'importe qui, quelqu'un. Que quelque chose se passe. Oui, par pitié, que quelque chose se passe. Je sais, je fais ma midlife crisis. Rien de plus normal. Il existe même un nom anglais à cette chose. Midlife crisis. Si les anglo-saxons nous l'ont nommé, c'est que c'est du solide. C'est connu, reconnu, normé, balisé. Rien de plus rassurant qu'un phénomène nommé par les Américains. L'étape suivante, c'est le sigle, le summum du rassurant. Je fais ma MLC. Et pourtant, il n'y avait pas que ça, non ? MLC, Midlife Crisis. Il n'y avait pas que ça, non, il y avait autre chose. Mais en parler, il ne pouvait pas. Choix du langage. VF. De toute façon, personne n'ira cafeter, je suis tout seul. J'ai même pas de chat pour aller raconter au chat des voisins que je regarde l'homme des vallées perdues en version française. Une gouvernante, un chat, de mieux en mieux. Bruce eut l'intention que ce soir, même Alan Ladd ne serait pas plus fort que le blues qu'il avait saisi au cœur. Il ouvrit en grand les fenêtres, la rumeur de la place de la Bastille, odeur de kebab et de nuit parisienne. Il faudrait que quelque chose se passe, un miracle, quelque chose. Bruce fut exaucé le lendemain, du moins le crut-il, et cela suffit à tout changer. La journée avait pourtant mal commencé. Le tas de chemises qui le narguait, puis sous la douche, il s'était trouvé gros. Julien avait annulé le dîner demain soir, il avait rencontré une fille, il l'emmenait en week-end. À Châtelet, la ligne 4 était en panne ou en grève, enfin, fallait pas compter sur elle. Bruce décida d'inverser le cours des choses, de prendre les tuiles comme des bénédictions. C'était un vieux truc de sa copine Zaza, qu'il essayait de mettre en application quand il avait la force. Il quitta les couloirs glauques et surpeuplés du métro et sortit à l'air libre. Dans un troquet, il avala un café et un croissant en lisant son horoscope dans le Parisien. « Méfiez-vous des mauvaises rencontres. » Formidable. Il adorait les mauvaises rencontres. Quand avait-il improvisé un petit déj sur le pouce la dernière fois ? Il traversa la Seine et se retrouva devant le palais de justice. Dieu que cette ville était belle. Les stands du marché aux fleurs étaient déjà ouverts. Il déambula un moment entre les pigeons du coin et fit de l'œil à une touriste japonaise qui ne savait plus où se mettre. En quittant l'île de la Cité, il salua l'église Saint-Saturnin, lut les programmes des concerts en se promettant d'assister au moins à l'un d'eux, de faire l'effort d'avoir une vie culturelle à la hauteur de ce que proposait cette ville, dont, comme une vieille amoureuse, il ne voyait même plus la beauté. Il atteignit enfin l'université par le chemin des écoliers. Il donnait un cours dans une petite salle en bois avec vue sur le Collège de France. Bien sûr, l'ascenseur ne fonctionnait pas. Il grimpa les 4 étages à pied et fut essoufflé, se demanda si ça valait le coup d'avoir arrêté de fumer. Rendit les copies à ses étudiants, essaya d'être encourageant, mais vraiment n'y parvint pas. Il avait perdu la foi. À la pause de 10 heures, il dut subir les demandes d'explication, de précision, les doléances. « Mais monsieur, si j'ai pas la moyenne, j'ai pas mon master. » Ce fut infernal. Alors à midi, il s'enfuit à peine le cours terminé. C'était mai. C'était Paris. Pourquoi s'était-il entêté à venir en métro pendant des années alors que la ville était si belle ? À pied. Désormais, il viendrait à pied. Il s'attarda devant les vitrines du vieux campeur, la boutique des chaussures, la boutique des cartes, la boutique des choses indispensables à tout aventurier des temps modernes. Veste thermorégulatrice, mitaine bionique, couteau suisse avec tronçonneuse intégrée, mousse à raser lyophilisée. Non, je plaisante. Au bout d'un moment, il se décida à entrer chez les chaussures. Il y en avait de belles en vitrine, mais le meilleur était à venir. Au rez-de-chaussée, seuls quelques paires étaient exposées, sur le mur, comme dans un musée. Il fallait emprunter un escalier qui menait jusqu'à une sorte de crypte. Le Graal, ça se mérite. La boutique était pleine, c'était l'effervescence. Ainsi, tant de gens à Paris étaient concernés par des chaussures de marche. Bruce regardait les clients, avait-il l'air plus expert que lui en chaussures ? C'était quoi cette secte des Parisiens qui venaient essayer des godillots de randonnée pendant leur pause déjeuner ? « Je peux vous aider ?» Bruce bégaya, eut peur d'avoir l'air profane au milieu de pros, ce que son orgueil déplacé lui interdisait. « Je voudrais des chaussures. »« Eh ben, jusque-là, tout va bien. » Voilà, la mauvaise rencontre, un vendeur sarcastique. « C'est pour marcher, de pire en pire. » À peine sorti de son quotidien, le voilà qui s'embourbait. « Ben, vous êtes au bon endroit. Et pour quel genre de marche ? Trek, loisir, montagne, plat ? » Ah, c'était donc si technique, une paire de pompes ? Un peu tout. Je vois. Installez-vous, je vais vous chercher un premier modèle. Votre pointure ? Délivré un moment de l'inquisiteur, Bruce observait alentour une jeune femme brune, aux chignons flous et au regard fragile. Répondait-elle aussi aux questions d'un vendeur ? Elle partait 2 mois, plaines et montagnes, plus exactement. L'Aubrac, les Pyrénées. Le vendeur prit un air entendu. « Ah, vous partez à Compostelle !» La jeune femme eut l'air déçue, comme si on venait de percer son secret. Elle baissa les yeux. « J'ai ce qu'il vous faut, ma petite dame. » Compostelle. Il fallut quelques secondes à Bruce pour situer ce mot. Compostelle, le chemin de Compostelle. Ah oui, une amie d'une amie de Zaza, ou une collègue, ou une cousine. Zaza avait dit « une expérience merveilleuse, elle est revenue amincie, amoureuse, apaisée. Si je n'étais pas si paresseuse, j'irais de ce pas. » Ouais, voilà. Un pèlerinage jusqu'au bout de l'Espagne, Saint-Jacques de Compostelle. La cathédrale, comme dans le livre de cet écrivain galicien Manuel Rivas, et les poèmes de Lorca, Saint-Jacques de Compostelle. À présent, la jeune femme lassait des chaussures hautes, un peu lourdes. Le vendeur lui faisait l'article. « À la fin de la journée, vous serez fatiguée. Il y a des risques de se fouler la cheville en roulant sur une pierre. Mieux vaut prendre des chaussures montantes. » Bruce ne perdait pas une miette du discours du vendeur. Son vendeur à lui revint avec une paire de chaussures laides et basses. Il dit « Non, 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 merci, finalement non. » Et il sortit de la boutique. L'après-midi se passa entre Gibert Joseph et la carterie du vieux campeur. Le Puy-en-Velay, Vézelay, Tours, Arles, il acheta les 4 guides. Plus 2 livres de témoignages de la lecture en perspective. En fin de journée, il entreprit de rentrer chez lui et faire la conversation au tas de chemises sales. Le soleil se couchait dans son dos, les choses prenaient une tournure nouvelle. Un projet, par exemple. Un catalyseur pour sa MLC. Un plan sur la comète. C'était déjà un plan. C'est à ce moment que l'hymne à la joie retentit dans sa poche. « Bruce, comment vas-tu, mon chéri ? Ah, maman !» Voulait rappeler à Bruce que le mois prochain, c'était son anniversaire, comme s'il allait oublier. Depuis qu'il se rapprochait de la quarantaine, ses anniversaires le mettaient en empathie avec les martyrs de toutes les religions. Pouvait-on envisager de le fêter ensemble ? Oh non. Bruce raccrocha assommé. Il marcha au radar, trouva un square avec un banc dedans, se laissa tomber sur le banc. Plus de 20 ans que Bruce ne fêtait plus son anniversaire avec sa mère. Et voilà que justement, cette année, elle voulait le fêter avec lui. C'est qu'elle y avait pensé, elle aussi. Peut-être même avait-elle peur, comme lui. Il était perdu. Pourtant, tout allait bien. Pourquoi déjà ? Ah oui, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Une idée de fou, mais une idée. Un début d'idée. Acheter des chaussures et marcher. Ne penser à rien. Combattre la superstition, ne pas se laisser envahir par des idées de malédiction. Ou bien prendre un avion, partir loin. Ou pas. Être un vrai homme, rester et faire face. Quoi alors ? Faut partir, monsieur ! Bruce n'avait pas vu le gardien du square s'asseoir à côté de lui. Il sursauta et lui lança un regard halluciné. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit ? Faut partir, le square va fermer. Ah oui, oui, le square, bien sûr, pardon. Il poussa la grille comme un automate, remonta l'avenue Victoria jusqu'à l'hôtel de ville, resta en stand-by un long moment devant le manège de chevaux de bois. Appela Zaza. Zaza, pas là. Le marais, les falafels de la rue des Rosiers lui remontraient le moral, pour sûr. Mais c'était vendredi soir, Shabbat, fermé. Fermé. Faut partir. You drop your package, falling on your knees, grinding on your grave. Was that shit that you and your friend that he thought that was lit? Now you're walking into your death, oh, and you're eating.
So
La danseuse. Il faisait encore nuit quand Marat sortit d'Estaing. Elle se faufila dans les ruelles en veillant à rester silencieuse. La ville dormait. Au moment où elle franchit le pont, les réverbères s'éteignirent, sonnant le début du jour. Il faisait frais, la fraîcheur du fleuve et des montagnes. Là-haut, la lumière hésitait encore, mauve ou jaune, le ciel s'apprêtait. Après quelques minutes de plat, le chemin devenait pentu. C'était ainsi chaque matin. On dormait dans les villages, les hameaux bâtis au creux des fleuves et des rivières, et au matin, il fallait regagner les sommets. À chaque matin, sa montagne. Marat avait pris le pli. Elle partait à l'aube pour marcher seule toute la matinée. L'obscurité, puis le brouillard des premières heures de jour gommaient tout effort. On parcourait des kilomètres sans s'en apercevoir. On grimpait pourtant. Bientôt, la vallée ne serait plus visible, perdue sous les nappes de nuages ou de brumes. Marat ne savait pas très bien. Bientôt, elle atteindrait la route des crêtes, en équilibre entre deux flancs de montagne. Quand on ne peut pas monter plus haut, quand tout s'incline et que l'on devine au loin le dessin du chemin. La joie sauvage des routes de crête. Avec précaution, elle contournait l'étoile d'araignée éclairée de rosée. En haut, elle s'arrêterait un moment. Marat aimait faire halte sur les points culminants. 10 jours qu'elle marchait, et elle prenait déjà de nouvelles habitudes. Par exemple, partir très tôt, grimper la première montagne, faire halte au point haut, enlever sa polaire et croquer un bout de pain. S'allonger dans l'herbe, encore toute mouillée, et repartir quand elle sentait son corps refroidi. L'après-midi, elle faisait la sieste, se laissant dépasser par les autres pèlerins. Elle arrivait souvent bonne dernière au refuge, le soleil en pleine figure. Depuis une semaine, Marité l'attendait pour faire la lessive ensemble ou prendre un pot en terrasse, si terrasse il y avait. Marat allumait une cigarette, la seule de la journée. Les montagnes lui avaient passé l'envie. Elles étaient devenues copines comme ça, Marité et Marat. Marité avait dit « Je peux te voler une cigarette ?» Je m'étais promis de pas recommencer, mais si tu fumes sous mon nez, juste une, hein. Marité était douce, belle, ronde, tout le contraire de Marat. Mais Marité allait quitter le chemin à Conques, c'est-à-dire demain soir. C'était une catastrophe. Marat chassa le cafard, tenta de ne penser à rien comme au premier moment du réveil. Petite route ombragée de conifères et de châtaigniers, elle clignait des yeux, jouait avec l'ombre des arbres. Les forêts de châtaigniers aimaient des fantômes. Marat les sentait. Les petits fantômes perchés dans les arbres ou sur son épaule. La forêt bruissait de fantômes. Elle, légère, cotonneuse, entourée, une présence à ses côtés, une présence douce et bienveillante tout autour d'elle. La présence du chemin, le chemin l'accompagnait. Elle le sentait chaud et rassurant. Le chemin la consolait. Elle filait à flanc de montagne, sentier de contrebandiers bordés de prés verts et d'arbres doux froufrous. Et elle, bordée aussi, comme dans un lit d'enfant. Depuis le premier jour de marche, Marat avait compris que c'était vrai ce qu'on disait. Que le chemin donne au pèlerin ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'était un bruit qui courait. Marat avait cru à une superstition. Oh, pas longtemps. Non, pas longtemps. Au premier jour, il y avait eu cette fontaine d'eau potable surgie alors qu'elle avait soif. Au sauvage, il y avait eu cette femme, Clotilde, plus perdue qu'elle encore. Marat l'avait consolée et, pour un soir, avait oublié son chagrin. Et puis Marité, la douce Marité. Avant encore, elle avait trouvé son bâton de pèlerin dans la forêt féerique de Saint-Chély-d'Aubrac. C'était un petit chêne mort, mais debout, sur le bord du chemin. Elle l'avait déraciné et lui avait promis de l'emmener jusqu'à Fistère. comme dans ce poème où un arbre rêve de devenir un mât de bateau. « Tu seras mon mât », avait-elle dit au petit tronc. « Tu seras mon mât et tu me protégeras des chiens et des vieilles peurs. Et moi, en échange, je te montrerai la mer, l'océan, le bout de la terre d'Europe. » C'était bien la première fois que Marat parlait à un arbre. Quelques kilomètres plus loin, un chien noir l'a surpris au détour d'un village. Mais Marat avait son bâton, désormais, et la bête se tint à distance. Depuis le bâton et le chien, elle en était certaine, le chemin lui donnerait des fontaines, des rencontres, des routes de crête et des jours de pluie quand il faudra. Quand il faudra. Elle fit halte dans une clairière et s'assoubit à l'ombre. Le soleil lui chauffait le ventre, c'était doux. Elle s'endormit profondément et dans son rêve, elle plantait des arbres sur une plage. Puis un autre rêve, un mauvais, un sombre. À son réveil, elle avait froid. Le soleil était au zénith, mais elle avait froid. Devina que la bête préparait un nouvel assaut. Endormie et rêveuse, Marat avait baissé la garde et l'autre s'était réveillé. Elle se leva, mal au ventre, sentait la blessure menacée. Appuyée sur son bâton, comment un petit bout de bois ramassé en bord de chemin peut-il supporter tout ce vertige? Les premiers pas, minuscules, une vieillarde à bout de souffle. Elle se serait volontiers laissée tomber par terre. Un pas, un autre pas. Des petits pas, mais des pas quand même, le froid sous le soleil, elle connaissait ce froid. Comme un grand châle, la tristesse venait de se poser sur ses épaules. Marat releva ses cheveux, y planta un bout de bois pour les retenir en chignon et se remit en marche. Elle était épuisée, il était à peine midi. Les images du rêve mauvais la hantaient, revenaient à la charge, la brûlaient, tournaient autour d'elle, tel un papillon fou de lumière. Marat les chassait comme elle pouvait, mais elle ne pouvait pas grand-chose. Elle ne s'en débarrasserait pas comme ça. Elle trébuchait à chaque pas, son bâton ne lui était d'aucun secours. La bienveillance du chemin avait disparu. Elle était seule, son chignon défait, les cheveux dans les yeux dans les larmes. La douleur guettait, tapie quelque part dans son ventre. La blessure de l'âme était dans le ventre et Marat la serrait de sa main gauche, de son bras gauche, bientôt tout entière recroquevillée sur son ventre pour empêcher la bête de bondir. Respirez. Écoutez le bruit de mes pas sur le sol meuble du chemin. Le bruit de ses propres pas, deux pieds, un bâton. Maintenant, Marat, bercé par son pas régulier qui se redresse doucement, doucement, marcher, encore. Voilà pourquoi elle était partie. À Paris, dans le petit appartement, quand la bête bondissait de ses entrailles, elle était terrassée. Des journées entières roulées en boule, recroquevillées par terre. Et les nuits, jusqu'à ce que l'autre se lasse. Mais ici, elle ne pouvait pas tomber au milieu du chemin. Il fallait continuer, il fallait marcher, tous les matins se lever et avancer, même si la bête guettait. Marat avait espéré la laisser loin derrière, laisser la douleur sur le quai de la gare de Lyon. Mais dans le train pour le Puy, elle était encore là. Marat l'avait bien senti, l'indescriptible. Elle ne se lassait pas, elle s'accrochait à ses pas. Elle disparaissait des journées entières et soudain surgissait comme maintenant, comme aujourd'hui. Et lutter, Marat ne pouvait pas. Personne ne lui avait appris comment lutter contre cette bête-là. Personne. En bas de la montagne, le ruisseau, juste à l'entrée d'Espérac. Marat aime les ruisseaux. Un ruisseau, même minuscule, et un pont suffisent à faire couler de l'eau sous les ponts. Et il paraît que quand elle a bien coulé l'eau, longtemps, généreuse, nuit et jour, même le dimanche, la paix revient. Alors Marat s'arrête sur les petits ponts, les grands ponts. Elle regarde l'eau couler, gouttes, vagues, tourbillons, se demandant combien de fleuves, de ruisseaux, de rivières, combien de ponts. « Tu fais des ricochets ?» Marité dévale la montagne, bientôt elle aussi sur le pont. Le sourire de Marité, ce merveilleux sourire où Marat aime à se réfugier les jours de pas d'eau chaude, pas le moral, pas le soleil, ce merveilleux sourire se fige et disparaît. Marat sait très bien pourquoi le sourire de Marité s'est enfui jambes à son cou. Elle sait très bien. C'est la bête qui lui donne un visage de poupée porcelaine, fragile, la porcelaine. Marité râle, elle dit « Marat, mais qu'est-ce que c'est que cette tête? T'es bien pâle pour une marcheuse !» Marat cassante dit « Ça va, occupe-toi de toi !» et lui tourne le dos, part devant, se tient droite, raide, forte. Non mais que croit-elle celle-là? Qu'elle va résoudre tous les problèmes du monde juste avec son beau sourire? Ce serait si simple. Pourtant, de se coller contre Marité, de pleurer, de dire la bête, la peur de la bête, les fantômes, ce serait si simple. Mais ça ne sera jamais. Mara n'est pas simple, elle ne sait pas. Elle se mord les lèvres, qui bientôt seront rouges comme celles des poupées qui se cassent quand on les laisse tomber en 1000 morceaux. Elle marche d'un bon pas, ne pas tomber au milieu du chemin. Personne ne la ramasserait. Personne ne l'a jamais ramassée quand elle tombait. À la sortie du bourg, Marité s'est rapprochée. Mara a mal à la gorge. Elle serre son bâton fort, si fort dans son poing que tout son bras est douloureux. « Mara !» D'une voix ferme, une voix de mère supérieure, Marité dit « Je ne sais pas ce que tu as, Mara, et je ne te l'arracherai pas. Mais ce soir, c'est mon dernier soir, alors ne gâche pas tout. » « Je gâche toujours tout. Pas ici, pas ce soir. Si tu me cherches, je suis au gîte. Besoin d'une douche, moi. » Et Marité tourne les talons. La Marité qui visite les petites églises, dessine les vitraux, écrit des cartes postales, des tas de cartes postales. Mara murmure. « Moi aussi, j'ai besoin d'une douche. Oui, ben moi d'abord, je suis la plus vieille. Mais moi, je suis la plus petite et la plus sale. Tu es surtout la plus emmerdeuse et la plus sale. Tu es une sale petite emmerdeuse. Oui. »
You've been high above ground, wishing you could elevate, and now you're coming on down. What you gonna celebrate? Was giving unto yourself the opportunity. So now only look to yourself to find your enemy. Every little corner gets a little darker when you're alone, I know. But you find a meaning for the one seeking, learning how to let go. Shine a little light then for the troubled hearts, them caught up in a raging fire. Thought you ever gonna go through this when you follow your inside. And I say, oh, don't lie to yourself. Don't lie to yourself. Ba-da-da-ba-da. Don't lie to yourself. Don't you lie to yourself. And I say, oh. Of your own game, seeking after fame. What a shame, what a shame. Seeking for love from the outside, like a traveler lost by the wayside. Don't you know it comes from the inside? Past the ego in the mind, and you'll find there is no lock at the entrance. It is free for all in its essence. Come and take your part in the wonders. The true love at first glance. Don't lie to yourself. Don't lie to yourself. Ba-da-da-ba-da. Don't lie to yourself. Don't you lie to yourself. Ooh, ba-da-da-ba-da.
Mara laisse longtemps couler l'eau sur ses épaules nouées, ses cheveux trop longs, trop épais, l'eau tiède en cascade, les yeux clos, le visage inondé. Le village est au bord du ruisseau, au fond de la montagne, dans la petite vallée creusée de torrents. Le gîte est au bout de la rue, pavée aux maisons comme des breloques. Et Mara est sous l'eau qui dégringole sur elle. Elle reste encore longtemps ainsi, lavée de la journée, de la poussière du chemin, du sel dans ses yeux. Puis elle frotte, elle lave sa peau, ses pieds tout durs de cornes. Elle tente d'ouvrir un œil, les aperçoit à travers le rideau d'eau. Des années de danse, ils ont gardé une cambrure exagérée mais très jolie, des doigts de pied rabougris et une cheville en délicatesse. Ils étaient le dernier lien au sol, à la terre, toujours plus précaire le lien. Elle aurait voulu s'envoler, légère, si légère, petite, les cheveux bien attachés, engrillagés dans un filet. Elle fuyait la pesanteur, un filet. Ouais, c'était bien ça, un pauvre poisson volant pris dans un filet de pêche. Parce qu'on retombe toujours. Croire que l'on va atteindre la perfection là-haut, que l'on va pouvoir impunément réduire la surface de chair qui nous attache au sol, c'est un leurre. Et c'était bien avec ce leurre qu'on attrape les poissons, non ? Elle regardait ses pieds bien à plat dans la vieille cabine de douche, vivant, brûlant de fatigue, des pieds de marcheuse. L'énergie qu'elle mettait avant à vouloir s'envoler, elle la mettait à avancer maintenant. Elle avait renoncé au vertical, à l'illusion des papillons fous pour se jeter sur ce chemin au ras de la terre et des maisons, se cogner dans les autres, trébucher sur des pierres de fatigue, dormir dans l'herbe, être enfin dans le monde. Même si ça heurte, même si ça épuise, même si ça bouleverse, voilà où elle était ce soir, dans le monde, sur ses pieds de marcheuse, calleux et sale, épanouie et furieux dans le monde, sur la terre. Elle coupa l'eau et sortit de la douche toute nue. Le gîte était vide. Encore aucun autre pèlerin arrivé. Seule Marité qui somnolait sur le canapé. Dans la petite salle de bain, Mara noua sa serviette en turban sur ses cheveux humides et fit des mines dans la glace. Des mines de sorcière. Nez et mains crochus. Dénoua ses cheveux qui tombaient lourds sur ses épaules. Les tira en chignon dur, de face et de profil. Instinctivement baissa les épaules et redressa le cou. Puis lâcha tout. Jusqu'aux lèvres en mou, aux sourcils graves. Se préféra ainsi. En se penchant un peu vers le miroir, Mara devina des petites rides au coin des yeux et en dessous. La peau fripée sous les yeux, mangée par le sel des larmes. Ces petites rides creusées qui rendent les gens plus beaux. Elle sourit, ou plutôt, elle se sourit. Elle eut l'impression d'une autre dans le miroir. Inspecta ses ongles de pied coupés courts, les dernières traces de vernis rouge de ci de là, émouvantes presque, les dernières traces de sa vie d'avant le chemin, parce que ce ne sera plus pareil, jamais, Mara le sentait à présent. Au bâton, à Marité, à la fontaine, cette journée avait ajouté ce gîte paumé comme la maison d'une grand-mère, où l'on va se réfugier après les coups du sort. C'était un chemin magicien, et elle était une pèlerine sorcière, fameux attelage. Petite, Mara s'était déjà sentie sorcière. C'est sa mère qui le lui avait dit. « Mara, mercredi prochain, nous allons couper ces cheveux qui te donnent l'air d'une pauvrette. » Comme Mara avait résisté, sa mère avait dit « Tu ressembles à une sorcière, ma fille, avec ces cheveux. Tu n'es déjà pas très belle, alors fais des efforts. » Mara avait détesté les adultes, détesté de ne pouvoir donner son avis, dire que ses cheveux étaient très importants. Elle avait griffé, s'était pris une claque dans la rue et était ressortie de chez le coiffeur les cheveux très courts, comme ceux d'un garçon, comme ceux de sa mère. Sauf que ceux de sa mère étaient blonds et les siens noirs, noirs. « Je t'emmène chez mon coiffeur, un coiffeur pour dame. Tu devrais être contente, Mara. Tu n'es jamais contente de rien. » Le coiffeur avait dit « Mon Dieu, mais j'ai jamais vu une tignasse aussi noire. Avec une mère comme toi, une vraie blonde, c'est surprenant. T'es sûre que c'est ta fille ?» Et sa mère avait rigolé, ses grandes dents de mauvaise comme prêtes à mordre, à dévorer, découvertes. Elle tient de son père. Elle avait levé les yeux au ciel. « Pendant que vous y êtes, coupez-lui les ongles courts, cette peste m'a griffée. » Le coiffeur avait obtempéré, tout le monde obtempérait quand madame mère exigeait. Sauf peut-être le père de Mara. Mara adorait son père. Un rêveur dont la seule ambition était le bonheur. Comme souvent les hommes gentils, il s'était fait mettre le grappin dessus par une méchante, la mère de Marat, et avait payé toute sa vie cette imprudence. Marat pensait même que c'est de ça qu'il était mort, de tristesse et d'épuisement, le cœur épuisé par le venin. Même après leur séparation, elle avait continué à l'empoisonner, et quand il était mort d'un infarctus, une belle mort, avait dit sa mère, Marat avait pensé, elle l'a assassiné. Des années qu'elle l'assassine. À l'enterrement, la mère de Marat avait répété « Une belle mort, il n'a pas souffert. » Mais à 46 ans, il n'y a pas de belle mort. Après, Marat avait cherché et compris que si, bien sûr que si, un arrêt du cœur, c'est douloureux, c'est la poitrine qui se déchire. Elle avait 16 ans, c'était le printemps. On avait vendu la maison de Bourgogne et bientôt Marat avait cessé d'avoir faim. Elle ne se nourrissait plus que de grains de maïs comme son père lui grillait le vendredi soir quand elle arrivait de la pension pour passer le week-end avec lui. Des grains de maïs, du pain de maïs, des tortillas toutes plates, parce qu'il avait des ancêtres mexicains, zapothèques même, dont il avait hérité. Un profil mythique dessinait la serpe et des cheveux bruns très épais transmis à sa fille. Au grand désespoir de son épouse qui trouvait que les cheveux bruns épais n'allaient pas au teint. Le teint de Marat était pourtant en accord avec ses cheveux, mat au premier rayon de soleil, même l'hiver. Sa mère, au contraire, ne sortait jamais sans un écran total, même la nuit. Ces deux-là s'étaient-ils aimés un jour ? L'important, c'est que tu sois née, Marat. Si je n'avais pas rencontré ta mère, tu ne serais pas née. Bien sûr, elle n'est pas facile, mais oui, je l'ai aimée. Et toi, je t'ai aimée avant même que tu ne naisses. Je te devinais, Marat, je t'attendais. Après le divorce, le père de Marat s'était installé à la campagne, une longère à la sortie d'un village de Bourgogne qui s'appelait Corvol. Elle aimait cette maison, il faisait bon s'y réfugier un week-end sur deux, avant de rejoindre le dimanche soir le froid du pensionnat. Quand elle eut 12 ans, son père tenta de la faire inscrire au collège local, de la prendre avec lui, mais jamais son ex-femme ne le laissa faire. Des années plus tard, Marat ne comprenait toujours pas pourquoi leur mère leur avait interdit ce bonheur. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de pourquoi, pas de raison, à part celle terrible, indélébile de vouloir saccager le bonheur des autres. Un soir de colère, il n'y a pas si longtemps, Marat lui avait dit « Tu n'es pas heureuse, alors tu voudrais que personne ne le soit. » Et l'autre, sa mère, pourtant, lui avait répondu, avec ce rictus qui lui découvrait les canines « Tu as tout compris, c'est bien, tu gagneras du temps, parce que n'oublie pas, tu es comme moi, Marat, tu es ma fille, je t'ai faite, toi non plus, tu ne seras jamais heureuse, jamais !» Le bonheur, c'est pour les faibles, les vides, c'est pour les autres. Voilà. En somme, Marat avait été obéissante, une petite fille obéissante. Marité dormait encore, elle somnolait et son visage avait l'air encore plus doux que d'habitude. Marat, assise sur un bout de canapé, regardait son amie dormir et se donnait l'impression d'une voleuse. De Marité, Marat aimait la douceur, les cheveux courts à la Jane Seberg, l'accent, l'absence de questions et se lever contre sa poitrine de mama, son intransigeance aussi. Pour le reste, elle ne savait rien d'elle. C'était une politesse qu'elle se faisait. Marité ne posait pas de questions. Alors Marat non plus. Non, en fait, c'était une politesse que Marité faisait à Marat. Mais Marité peut-être avait envie d'en dire plus. Est-ce qu'elle avait un homme, Marité ? Est-ce qu'elle aimait danser ? Et ses films préférés, et pourquoi elle était là, à qui étaient destinées les cartes postales qu'elle écrivait de chaque étape. Elle quittait le chemin demain, mais pour retrouver quoi, qui, quel bras, quelle vie. Le village, désert quelques heures auparavant, se remplissait peu à peu. Deux jeunes, une mobilette, trois vieux, quatre cannes, des dames, leurs cabas, quelques chiens, les clients du bar. À la terrasse du café de la place, Marat se massait les pieds. On trinquait au départ de Marité quand une silhouette de pantin fatigué apparut en haut de la rue. Marat plissa les yeux. À sa façon de marcher comme une égarée, elle reconnut Clotilde. Ailée par Marat, Clotilde fit demi-tour comme c'était dur en fin de journée de revenir sur ses pas, même quelques pas. On lui avança une chaise et Clotilde se laissa tomber dessus sans même enlever son barda, ce qui eut pour effet de la repousser au bout de la chaise, le sac assis plus confortablement qu'elle. Marat se chargea des présentations. Clotilde, Marité. Nous nous suivons depuis un moment. Et Marité, voici Clotilde. On s'est rencontrés un soir au sauvage. Clotilde n'avait aucune idée de ce que l'on doit boire dans un bar. Puis elle se souvint de la formule magique pour se sortir d'un mauvais pas au restaurant et qui devait bien fonctionner dans un café. Comme vous, je prendrai la même chose que vous. Puisque c'était ainsi, elle s'employa à détacher son sac à dos et à s'installer confortablement sur sa chaise. Elle se faisait l'effet d'une gourgandine. Marité et Marat assises là, comme chez elle, à la terrasse d'un bar de village, seules étrangères, seules femmes, ce que Clotilde n'aurait jamais osé. Rentrer seule dans un bar, par exemple. Un soir de solitude ou d'anniversaire triste, elle était allée au cinéma vers la Bastille. Il faisait beau, chaud même, et elle avait été tentée de s'arrêter boire un verre, un Perrier, un Vitel Cassis, dans un café de la place des Vosges. Elle se souvenait avoir erré longtemps sous les arcades en feignant de regarder les galeries d'art, hésitante, n'osant pas s'asseoir, simplement comme cette jeune fille qui lisait accoudée au bar, se moquant du Candy Radon, comme cette femme plus âgée qui buvait un café sans même tenter de se donner une contenance, sans journal ni téléphone, juste elle, dans le bonheur du soir, à cette table de café. Clotilde les avait enviées, aurait tant aimé oser, elle aussi, s'asseoir là et ne rien faire, enjamber enfin les cactus plantés en bordure de son éducation. Il serait temps. Mais elle avait renoncé et s'était enfuie à travers le square à grandes enjambées, penaude, seule, déçue par tant de choses. Et voici que quelques mois plus tard, Marat et Marité l'invitaient à leur table et c'était comme si ces deux femmes de la place des Vosges l'avaient conviée ce soir-là à les rejoindre. Marat, pieds nus, apporta 3 verres de rosé. « Tiens, Clotilde, ta grenadine !» Marat, pieds nus. Clotilde ôta elle aussi ses chaussures. Marat, comme je suis heureuse de te voir, quel réconfort! Marat n'avait jamais été un réconfort pour qui que ce soit, alluma une cigarette et se recroquevilla sur sa chaise. Bientôt Clotilde dit « Oh là là, j'ai les jambes coupées !» Puis « Oh là là, je suis pompette, moi !» Marité ajouta « Je crois bien que moi aussi, c'est pas désagréable. La dernière fois, c'était la veille de mon départ, les copines avaient organisé un dîner d'adieu, un dîner d'encouragement. C'était il y a quoi ? Une dizaine de jours. » Clotilde songeuse. « Moi, c'était il y a presque 30 ans, au mariage de ma sœur. J'avais 18 ans, j'étais engoncée dans une robe que j'avais pas choisie. Imaginez-vous, votre sœur se marie et on ne vous laisse pas choisir votre robe. À la sortie de l'église, un garçon, un ami d'amis de la famille, avait escaladé le calvaire pour prendre des photos. Oh, il m'avait semblé si audacieux, escalader un calvaire. Pour vous, c'est peut-être juste une facétie, mais imaginez, un mariage bourgeois, monsieur le curé, les enfants d'honneur, quelqu'un lui a fait signe de descendre, le témoin du marié. Je l'ai jamais aimé, celui-là. Le garçon a regagné le sol en s'accrochant au pied du Christ, vous pensez? Enfin, tout est rentré dans l'ordre, mais c'était trop tard. Trop tard. Le cortège s'est mis en route vers la propriété de nos parents où se tenait la réception. Clotilde s'en voulut de cette rigidité dans ses mots. Même ici, à ce bar, avec ses amis, après une journée de marche et un nombre pas raisonnable de verres de rosé, la propriété où se tenait la réception. Marat aurait dit « vers la maison où était la fête », mais elle, Clotilde, engoncée dans ses mots comme dans sa robe de ce jour-là, peu lui aurait importé si ses mots, ses attitudes l'exprimaient telles qu'elles étaient. Mais non, ils étaient ceux d'un monde où elle n'avait jamais vraiment été heureuse. Elle subissait cette vie corsetée où même le bonheur se devait d'être convenable. Inenvisageable de se plaindre pourtant, privilégiée qu'elle était. C'eût été indécent. Et à l'approche de la cinquantaine, elle en était encore là. Enfin, pas vraiment. Elle avait avancé, n'est-ce pas ? 10 jours de marche. Et ces kilomètres, elle avait choisi de les parcourir envers et contre tout. C'est peut-être la première chose qu'elle avait choisie, non ? Il y avait autre chose, plutôt quelqu'un. Elle, qui n'avait même pas eu son mot à dire sur les prénoms de ses enfants, ou si, mais juste un mot, « J'aurais aimé appeler ma fille Ava, à cause de la comtesse aux pieds nus, ou Eva, si tu préfères. » Non, non. Elle pouvait se vanter d'avoir tout de même voulu et eu un homme. Elle l'avait choisi, oui. On ne pouvait lui ôter ce fait d'armes. La patronne vint apporter l'addition. Clotilde attrapa la note. « Oh, laissez, c'est pour moi. Une pensée pour mon mari, ce grand seigneur qui invite toujours tout le monde au restaurant. » « Merci, Clotilde. Déjà qu'on te fait boire, si en plus on te dépouille. » »« C'est le but du pèlerinage, non, de se dépouiller ?»« En payant des coups aux copines, je suis pas certaine que ce soit la méthode consacrée. » »« Alors, le gars du calvaire ?» Bien sûr, il était accompagné d'une fille ravissante, mais avec une tenue indécente. Elle était en blanc. Rendez-vous compte ? En blanc, un jour de mariage. Bah, c'est très joli le blanc. Mais c'est la couleur de la mariée. Un jour de noces, on laisse le privilège du blanc à la mariée. Marat suivait bouche bée l'indignation de Clotilde, intacte des décennies plus tard. Bref, il était accompagné d'une greluche. Comment tu t'es débrouillée ? C'était sa sœur. Clotilde devina la déception des filles qui s'attendaient à un chouette récit de crêpage de chapeau chic. Et vous vous êtes mariée à votre tour ? Oh, ça n'a pas été aussi simple que ça. Il ne me remarquait pas. Je l'ai regardé de loin toute la journée. On a bien dû nous présenter à un moment donné, mais bien entendu, j'ai tout fait pour disparaître, pour me rendre insignifiante. Clotilde faisait durer le plaisir, surprise elle-même de son impudeur. Oh, j'avais déjà eu des amourettes, mais là, c'était différent. Il avait escaladé le calvaire. Dans cette vie si respectable, en ce jour de convenance et de cérémonie, j'étais pas heureuse, vous comprenez. J'aurais aimé moins de certitude. Cette acrobatie, c'est comme s'il l'avait faite pour moi. Alors j'ai bu pour me donner du courage. Puis j'ai dansé. Ah, tu sais danser ? Bien sûr, tu penses, chez moi, la valse, c'est comme l'alphabet. Des étoiles dans les yeux, elle dit « J'ai dansé et je suis une bonne danseuse. Une piètre marcheuse, mais une bonne danseuse. »
Eh bien, merci Catherine, merci Hervé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite du Vestibule des causes perdues et retrouver tous ces personnages qui marchent. À la semaine prochaine !